Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un nouveau personnage, presque oublié, mais qui a laissé une découverte que nous tous aujourd'hui nous connaissons et utilisons sans nous poser de questions. Allons donc à la découverte d'un homme de grande valeur qui a fait un travail énorme tout au long de sa vie. Claude Berthollet est né à Talloire le 9 décembre 1748. Son père notaire, secrétaire et même châtelain du village est de Philiberte de Noyers. 1758, il débute des études au collège chapuisien d'Annecy, puis à Chambéry, avant de partir tout naturellement pour suivre au-delà des monts, dans la capitale, des études de médecine et d'être reçu docteur à l'université de Turin en 1768. En 1772, il émigre à Paris pour parfaire ses connaissances médicales, mais il se met à étudier la chimie, sa vraie passion. En 1778, il est naturalisé français et l'année suivante, il épouse Marguerite Marie Bord, tout en étant reçu médecin de la faculté de Paris. Il devient alors le médecin particulier de Madame de Montesson, épouse de Louis-Philippe d'Orléans. Il obtient cette place qui lui permet de bien vivre tout en poursuivant des recherches grâce au docteur Tronchin, natif de Genève. Ce dernier avait eu le mérite de vulgariser l'inoculation dans plusieurs pays d'Europe. Ayant à sa disposition le laboratoire du bon docteur Mécène, le jeune Berthollet peut se consacrer entièrement à la chimie, sortant résolument des sentiers battus et partant même dans les directions inconnues jusqu'alors. Scientifique de haute volée, ce Savoyard note toutes ses observations dans des mémoires. En 1780, l'Académie des sciences l'embauche comme médecin adjoint chimiste et avec des savants de renom de l'époque comme Lavoisier. Il participe à la mise au point de tout un vocabulaire propre à la chimie afin de le simplifier et de le rendre compréhensif du plus grand nombre. En 1784, il dirige la manufacture des Gobelins. Succédant au sieur Macaire, il poursuit des études et trouve entre autres découvertes que l'acide peut devenir sans le secours de l'oxygène ou bien de l'azote et le principal composant de la substance animale. En 1792, il succède à Lavoisier le 7 janvier comme pensionnaire à l'Académie des sciences. L'année suivante, il est membre de la commission temporaire des arts et il devient professeur de chimie à l'école normale. Quel parcours ! En 1794, membre de l'Académie des sciences, membre de l'Institut dès sa fondation en 1795 et de plusieurs académies étrangères, il ne semble pas moins affecté par la révolution qui secoue la France. Il n'est pas concerné par l'inventaire des biens et amis de Lavoisier, guillotiné en 1794, et il fonde même, avec Monge, l'École polytechnique de Paris où il va enseigner. En 1796, le directoire propulse Claude Berthollet à la tête de la commission chargée de transférer les chefs-d'œuvre des musées italiens du Louvre. Cette fonction le met en rapport avec Bonaparte, esprit universel, qui se fait un peu enseigner à la chimie par le Savoyard. On raconte même que le général se serait ouvert de ses projets d'Égypte à son ami le chimiste, à qui il aurait demandé de choisir les savants comme Monge ou autres, qu'il emmènera lors de sa campagne d'Égypte. Durant cette campagne d'Égypte, il note avec scrupule toutes les observations relevées sur la terre des pharaons. Il revient en France peu de temps après Bonaparte et s'installe à Arcueil. 1799, après le coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon en fait un sénateur, puis un comte d'Empire en 1808 et un grand officier de la Légion d'honneur. Mais ce qui lui importe le plus, ce sont les heures qu'il passe dans son laboratoire d'Arcueil. Enfin, en 1803, Claude Berthollet publie ses travaux sur les affinités chimiques, les fameuses lois Berthollet. Premier théoricien chimiste de notre temps, il découvre la composition de l'ammoniac et nous lui devons l'eau de Javel, mais aussi les allumettes. Mais sait-on aujourd'hui que ce savant, à qui l'empereur avait donné en 1804 le titre de sénateur de Montpellier, fort bien doté, dû vendre ses chevaux et cesser de fréquenter la cour impériale pour payer les frais de laboratoire et de recherche. Napoléon le surprit un jour et fut fâché que son chimiste, comme il aimait l'appeler, en soit arrivé là. Il lui fit parvenir 100 000 écus, mais les recherches du chimiste sont des véritables puits sans fond. Généreux dans l'âme, il se ruine sans cesse alors que sa notoriété, son savoir et ses amitiés auraient pu en faire un homme immensément riche. De plus, il a la douleur de perdre son fils. Il souffre en silence lorsqu'il découvre le système de blanchiment d'étoiles. Il en fait cadeau aux fabricants alors qu'il aurait pu en tirer parti. Cela eût été probablement contraire à son éthique. Les découvertes scientifiques doivent profiter à tous, disait-il. En 1814, ami des plus grands savants de son temps, il doit, sous la pression du marquis Laplace, voter la destitution de son protecteur, l'empereur. Il se fait quelque peu oublier pendant les 100 jours et, en remerciement, Louis XVIII en fait un pair de France par une ordonnance royale. Ses nombreuses découvertes, qui sont encore très utiles de nos jours à l'industrie, ne lui ayant rien rapporté, il achève sa vie dans sa maison d'Arcueil, où il a fondé la société chimique, à laquelle il lègue un très grand nombre de ses mémoires sur les doubles décompositions connues. Nous l'avons vu sous le nom de Loi Berthollet. En 1818, il fait l'éloge funèbre de son ami Gaspard Monge, avec qui il vécut à Pariset, qui suivit Berthollet et Bonaparte en Égypte. La ville d'Atzy a baptisé un boulevard du nom de ce grand scientifique. En 1822, Claude Berthollet meurt à Arcueil, à 74 ans, oublié de beaucoup après une longue et douloureuse agonie de plusieurs mois. 1844, une statue est érigée sur le Paquier à Annecy. En 1863, cette statue est transférée dans les jardins de l'hôtel de ville et regarde le lac Étaloir. En 1888, le lycée annécien porte son nom et même la rue qu'il dessert. Outre Annecy et Chambéry, il existe une multitude de rues baptisées du nom de ce Savoyard que la France entière s'est aujourd'hui appropriée, n'est-il pas devenu français en 1778 ? En 1958, pour montrer à quel point Berthollet est aimé des Savoyards, les PTT ont émis un timbre à son effigie et celui-ci s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires à Taloir le premier jour. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Haussmann, ces Savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et surtout à une prochaine fois.